Merci beaucoup de votre présence. Je voudrais me présenter. Je m'appelle Gloria Ortiz et je travaille chez Imperial Institute. Je suis chargée de projets européens. Et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur le développement des compétences numériques des assistants de vie pour favoriser l'acceptation de la domotique. Cette présentation elle est étroitement liée avec un projet européen qu'on est en train de développer, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais bon, voici le sommaire de ma présentation. Comme je vous disais, je vais vous parler d'abord de l'expertise Imperial Institute. Et on va continuer ensuite avec les assistants de vie et le domaine des nouvelles technologies, tout ce qui est le milieu numérique, pour ensuite passer au projet européen Carl Plus, dont je suis la coordinatrice, et on finira avec des questions et des réponses. Je veux vous avertir avant de commencer toutefois, je devais être accompagnée par une collègue, donc la présentation sera un peu plus courte du prévu. Si jamais vous avez des questions, j'essaye de répondre au mieux possible, sinon je prends note de vos emails et on vous répondra en tout détail. Donc, l'expertise d'Imperial Institute se focalise sur la professionnalisation des emplois à la famille. Ça fait 20 ans que Imperial, avec l'AFEPEM, la Fédération des emplois, des particuliers employeurs, pardon, des emplois à la famille, et travaille ensemble pour améliorer la formation et la professionnalisation des assistants de vie et des emplois à la famille. Elle développe une offre continue en répondant aux besoins des salariés, mais aussi de leurs employeurs, ce qui nous permet d'avancer pour avoir des organismes de formation qui sont labellisés et agréés, qui donnent des modules de formation, et pour 2015, on sera à 86. Si vous voulez un peu plus d'informations, il y a quelques tablettes qui ont été distribuées aux premières files. Si vous voulez, après la présentation, je peux vous fournir plus. Et une autre des domaines où Imperia est un créateur d'expertise reconnu, c'est par rapport aux publications. Une mission d'édition a été créée pour répondre aux besoins des publications propres d'Imperia. Mais aussi, d'autres milieux sont aussi développés au niveau international et au niveau européen. On est très heureux d'avoir un partenariat très spécial avec le Burkina Faso. On va finaliser une convention d'ici quelques jours. Et on a aussi une dimension européenne qui nous a permis de développer des projets européens depuis 2012. Et notamment le projet européen dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on peut dire que Imperial, l'Institut, est un créateur d'innovation, pas seulement d'innovation technique, mais aussi d'innovation sociale. Pour vous montrer un peu plus dans les détails l'innovation technique portée à terme par Imperial, je veux vous montrer un petit vidéo qui a été préparé par rapport aux Serious Games. C'est un outil de formation qui nous permet de mettre la personne dans des situations réelles et de simuler une situation à laquelle elle devrait faire face et qui le permettrait d'anticiper les actions que cette personne va entreprendre pour résoudre le problème. Donc, voici un serious game qui a été élaboré par Imperial qui s'appelle Planète Vesta. Je vais passer à la vidéo.
Tels que les assistantes de vie à domicile. Ce projet rassemble trois partenaires, l'IFEF, Institut FEPEM de l'emploi familial, maintenant Imperia, l'IBEO, agence de web design, et l'OUSTIC, laboratoire d'observation des usages des technologies de l'information et de la communication. Le principe de base de Vesta est d'utiliser les avantages de l'univers du jeu pour créer l'immersion et se confronter, comme dans la vraie vie, à diverses situations pluriacteurs, aider, formateur et entourage familial, par exemple. L'apprentissage par l'expérience est ainsi favorisé par le biais de simulations et défis en ligne permettant l'acquisition de compétences à l'aide de mises en situation fréquemment rencontrées dans l'exercice de la profession. Ces aspects ludiques sont renforcés par une dimension sociale permettant l'échange, l'entraide et la mise en relation d'un public de professionnels souvent isolés dans l'exercice de leur métier. Cette dimension sociale est matérialisée par des forums, une messagerie personnelle, des défis et des jeux d'équipe. Comme dans la formation traditionnelle, les formateurs auront un rôle indispensable à jouer dans la dimension pédagogique. Modération des forums, instigation de débats et pistes de réflexion, réponse aux questions des apprenants.
Voici un des exemples d'innovation technique portée à terme par Hyperia. Mais elle n'est pas la seule, parce que chez Hyperia, on développe des formations à distance, tout en utilisant les nouvelles technologies, ce qui nous permet de faire des formations mixtes qui mélangent des sessions en présentiel, mais qui incluent aussi la formation à distance. Tout à l'heure, je vais vous montrer l'exemple de la formation à distance qui est développée dans le cadre du projet européen CAR+. Mais je voulais m'arrêter aussi par rapport à l'innovation sociale, parce qu'elle est si importante. On parle souvent d'innovation, mais l'innovation, elle n'est pas que technique. Elle peut être, et elle est au fait, sociale. Ici, quelques exemples. Par exemple, le français compétences professionnelles va permettre à toutes les personnes qui ne maîtrisent pas la langue française de pouvoir être à l'aise dans cette langue et pouvoir accéder à un emploi. Et c'est porter à terme ses capacités professionnelles qu'autrement seraient bloquées par cette barrière du langage. On fait aussi l'innovation sociale par rapport à l'alternance, mais aussi par rapport au relais des assistants de vie. Ça, c'est une des initiatives qui a eu aussi beaucoup de succès chez Hyperia, parce que ça a permis aux assistants de vie de trouver un espace commun pour échanger, pour parler des problématiques communes, pour trouver des solutions communes. Et c'est vraiment apprécié par les assistants de vie, et pour l'instant, l'évolution elle est plutôt positive, dans le sens qu'à chaque fois, on a un nombre plus grand de relais de vie. Ensuite, par rapport à ce qui est le contexte des assistants de vie et le numérique, il faut tout d'abord prendre conscience d'un constat, c'est l'allongement de l'espérance de vie, mais aussi le vieillissement de la population. Tout ceci, avec une évolution des pratiques professionnelles et sociales, a changé vraiment le panorama qu'on a aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, d'après ces constats, on a quelques conséquences auxquelles il faut faire face. On a moins de disponibilité familiale pour prendre en charge des personnes âgées. On a une émergence de nouveaux besoins de toutes ces personnes qui sont en situation de dépendance ou qui ont besoin d'un soutien. Et donc, il faut faire un suivi primordial de toutes ces questions sociales afin de donner une réponse efficace. Dans ce contexte, les solutions portées par Hyperia passent par la promotion du métier de l'assistant de vie. C'est-à-dire, ça passe par la formation des assistants de vie pour la prise en charge des personnes âgées par un personnel qui soit qualifié, qui a les bonnes compétences pour donner un bon service de soins. Et comme on disait tout à l'heure, dans le monde où l'on est aujourd'hui, où les outils numériques sont présents partout, on ne peut pas passer à côté, et donc on tient compte aussi de la pénétration des outils numériques au domicile des personnes âgées. Et tout ça parce qu'on croit fermement que l'assistant de vie est le chaînon manquant entre l'outil numérique et la personne âgée. Grâce à la relation privilégiée de confiance, des relations personnelles étroites qu'il y a l'assistant de vie avec la personne âgée, ça permet à la personne âgée d'être dans une meilleure disposition face aux nouvelles technologies. C'est-à-dire, si on confronte une personne âgée de 70 ans, 80 ans, toute seule à une tablette, elle va trouver que ça ne marche pas, elle va être découragée, elle va faire un blocage. Alors que si on fait l'accompagnement avec l'assistant de vie, une personne qu'elle connaît, une personne à laquelle elle fait confiance, ça va permettre petit à petit de découvrir au fur et à mesure toutes les possibilités que les nouvelles technologies offrent. Je vais vous donner plusieurs exemples plus tard qui ont été développés dans le cadre du projet européen CAR+. Et je peux vous dire que même si on n'a pas fini le projet, les résultats ils sont plutôt positifs. Et les personnes âgées elles sont vraiment intéressées, elles sont vraiment accrochées aux outils numériques. Et ça a changé vraiment leur vie dans le bon sens. Donc, continuant justement avec le projet européen CAR+, cette situation de vieillissement de la population, d'apparition de nouveaux besoins, des changements sociaux, elle n'existe pas qu'en France, elle se trouve pareil dans toute l'Europe. On fait le même constat, on a une population européenne qui est à chaque fois plus âgée et qui présente des défis. Par exemple, en parlant de personnes âgées, une des volontés de l'Union européenne, c'est d'essayer de maintenir les personnes âgées au domicile, de leur permettre d'être indépendants, de leur permettre d'avoir une vie propre et de ne pas passer par des institutions sociales. Ça, c'est vraiment lié alors à la montée en compétence des employés du domicile qui vont permettre justement aux personnes âgées d'être dans des bonnes conditions plus longtemps à son domicile. Tout ceci en utilisant justement un cédant avec des outils innovants, des outils numériques. Tous ces enjeux ils sont identifiés dans la stratégie Europe 2020 qui parle d'inclusion sociale, qui parle d'emploi, qui parle d'inclusion numérique. Donc on retrouve ici vraiment les objectifs et les groupes cibles du projet CAR+ qu'on va détailler plus tard. Juste une petite mention par rapport au cadre où le projet CAR+ se développe. Il est financé par les programmes pour l'innovation et la compétitivité qui est géré par la DigiConnect, c'est la direction générale pour tout ce qui est numérique chez la Commission européenne. Et je vais commencer avec quelques données clés sur le projet européen CAR+ qui vont vous aider à vous retrouver un peu dans le contexte. Ce projet il est porté à terme par un consortium qui regroupe 13 organisations de 8 pays membres qui se sont engagés à contribuer à l'agenda numérique de l'Europe. Il dure 3 ans. Il a commencé en 2012 et il va finir en mars 2015. Et comme vous voyez dans le logo, il y a vraiment un ensemble d'entités qui sont complémentaires. On trouve des universités comme par exemple au milieu une université italienne ou l'université britannique, le King's College of London. On trouve aussi des entités de recherche et on trouve aussi des entités qui sont dans les milieux numériques. Donc, tous ces mélanges d'entités qui sont dans le milieu social, dans le milieu numérique et dans la recherche, nous a permis de porter à terme un projet qui porte sur les compétences numériques des assistants de vie. Comme je vous disais tout à l'heure, on parle du constat que les assistants de vie sont les chaînons manquants entre l'outil numérique et les personnes âgées. C'est pour ça que le projet CAR+ a un double objectif. Tout d'abord, il envisage de doter au système de vie un ensemble de compétences numériques requises pour aider les personnes âgées en améliorant leur qualité de vie, leur autonomie, leur sécurité. Mais le projet CAR+ a aussi un deuxième objectif, c'est celui d'améliorer la professionnalisation des assistants de vie et de développer ses compétences professionnelles. Donc il y a vraiment un rapport entre le développement des compétences numériques des assistants de vie qu'ils peuvent transmettre aux personnes âgées et qui retombent sur ces compétences parce que ça leur permet d'acquérir tout un bagage d'outils numériques qu'ils ne savaient pas auparavant qui va leur permettre d'aller au-delà dans son parcours professionnel. Sur la première année du projet CAR+, donc 2012, le grand travail porté à terme, c'était la création d'un pardon, le référentiel de compétences numériques pour les assistants de vie. Pour ceci, il y a eu quelques travaux qui se sont portés à terme. On a eu des entretiens avec des experts, des focus groups, des questionnaires en ligne, avec un total de 133 participants qui nous ont aidés à réfléchir par rapport aux compétences numériques qui seraient nécessaires pour les assistants de vie. Tout cela a donné lieu à un cadre de compétences. Comme vous voyez dans le cercle au milieu, il y a des compétences numériques fondamentales qui sont basiques et qui sont nécessaires pour développer tout le reste. C'est-à-dire, il y a des personnes, il y a des assistants de vie qui ne sont pas confrontés vraiment avec Internet, qui ne savent pas utiliser une tablette ou un smartphone, qui ne savent pas consulter les informations sur Internet ou tout simplement envoyer des emails. Il y a des assistants de vie qui ont déjà ces compétences, mais pour aller au-delà, il faut vraiment s'assurer que tous les participants à la formation sont capables de développer cette compétence basique. Ensuite, on a des compétences numériques qui sont liées à la pratique professionnelle. Et tout ça permet aux assistants de vie de savoir, par exemple, comment préparer un CV pour un entretien de travail, savoir où aller chercher des offres de travail. Et tout ça le permet de développer ses carrières professionnelles. Ensuite, on finalise avec des compétences numériques spécifiques à l'accompagnement des personnes âgées. Cette compétence numérique dépend en grande mesure des besoins et des intérêts de la personne âgée. Mais pour vous donner quelques exemples concrets et simples, ça peut passer par exemple par l'utilisation de Skype. C'est une application qui nous permet de parler à distance en ayant même l'image. Et ça a permis à beaucoup de personnes participant à la formation d'être en contact avec leurs proches qui sont loin géographiquement. Et ça peut passer aussi par d'autres outils qui sont liés aux loisirs, des jeux de mémoire qui peuvent aider aux personnes qui sont âgées et qui ont des problèmes avec leur mémoire, de faire un entraînement qui va leur permettre de renforcer ses capacités cognitives. Sur la deuxième année, une fois que tous ces cadres et compétences étaient mis en place, il fallait vraiment commencer à travailler sur la formation. Et la formation, elle a été structurée de la même façon. On a des compétences numériques généralistes, des compétences numériques pour aider à la personne, et puis tout un ensemble de compétences qui sont liées au management et à l'organisation de l'aide, contexte de l'autonomie, l'inclusion sociale et la dépendance. Sur la deuxième année, on a commencé vraiment à mettre en place l'environnement d'apprentissage en ligne, et on a trois outils principaux. Tout d'abord, on a le portail européen des assistants de vie sur ses premiers liens, carplus.eu, qui est lié au réseau social Hyperia, dans les cas de la France, et aussi à la plateforme de formation en ligne. Ça, c'est le portail européen des assistants de vie, c'est le site web du projet Carplus. Comme vous voyez, il est disponible en plusieurs langues. Tout à nous, on a l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, letton et roumain. Ce sont les langues des participants au projet. Et on a un ensemble de formations qui sont divisées en fonction du profil du visiteur. Tout d'abord, on a les assistants de vie, puis on a les formateurs des assistants de vie, les experts et les scientifiques dont la recherche est focalisée sur le milieu des assistants de vie et les nouvelles technologies. Et aussi, il y a une rubrique pour les décideurs politiques, parce qu'une des volontés de ce projet, c'était vraiment de faire en sorte que le message sur l'avancement dans les nouvelles technologies et la formation assistant de vie pour professionnaliser ce métier passe vraiment au niveau politique. Ici, on a le deuxième outil, c'est le réseau Hyperion. Pour vous montrer un peu mieux toutes les fonctionnalités de ce réseau, je vais vous montrer aussi un petit vidéo. Comme vous avez vu, ce réseau permet à tous les professionnels des emplois à la famille d'avoir un lieu de rencontre, mais aussi d'échange et aussi de valorisation professionnelle. Comme vous avez vu, ça permet d'afficher les compétences propres, de créer des CV, mais aussi d'apprendre les uns les autres, d'échanger sur des expériences qui vont permettre d'améliorer au quotidien la pratique professionnelle. Ensuite, le dernier des outils qui a été développé pour la formation KR+, c'est une plateforme d'apprentissage modèle. Comme vous voyez, là à droite, c'est marqué français et c'est disponible aussi dans toutes les autres langues du projet, comme le site web. Donc, les personnes qui sont inscrites dans la formation KR+, ont un compte utilisateur et un mot de passe qui leur permet d'accéder à la formation en ligne après avoir fait des sessions avec les mentors qui va les aider à s'initier avec la plateforme et aussi à l'usage des outils numériques. Pour vous montrer un peu l'aspect de cette plateforme à l'intérieur, ici vous pouvez voir les cours qui sont disponibles. Et en cliquant sur chacun d'eux, on peut accéder au contenu. Ceci est le module d'introduction aux compétences numériques. Et donc, comme vous voyez, ça part des compétences vraiment basiques, comme par exemple expliquer le fonctionnement et l'installation d'une tablette, comprendre comment gérer une connexion Internet, ou utiliser un panel de pour ceci, on utilise un panel de compétences et des communications dans l'environnement d'Internet. Au fur et à mesure que les personnes avancent dans les modules de la formation, vous pouvez voir à gauche, à nous, des badges. C'est comme une espèce de médaille, on pourrait dire, pour les personnes qui progressent dans la formation et qui passent les modules. Donc ça montre à la fois le progrès dans la formation et ça fait aussi une motivation pour les personnes. C'est-à-dire, j'ai réussi à passer le module et donc j'ai eu mon badge. Tout ça a été mis en place pendant la troisième année, c'est-à-dire en grande partie cette année depuis le mois de mars jusqu'au mois de mars 2015. Et l'expérimentation, elle a été adaptée à la fois aux assistants de vie et aux personnes âgées. À travers des outils numériques qui sont simples, qui sont faciles à comprendre pour une personne qui n'a pas vraiment eu un contact avant avec le milieu numérique. Comme vous voyez, on a utilisé des tablettes et des puces NFC. À part les puces qui sont là, on a aussi, je peux vous montrer, des puces autocollantes. Ces petits dispositifs nous permet de l'installer où l'on veut dans la maison et ça permet d'avancer des ordres différentes. Par exemple, il y a des applications qui permettent de rappeler les médicaments qu'une personne âgée peut prendre et donc juste en posant la tablette sur un de ces autocollants, elle peut avoir tous les détails des médicaments qu'elle va prendre tout au long de la journée. Ça peut permettre aussi des choses beaucoup plus simples. Comme je vous expliquais avant, une des applications qui a eu vraiment du succès, c'est Skype. Et ça peut permettre de lancer, par exemple, un appel à un petit enfant. Donc, en posant la tablette sur ça, ça déclenche directement un appel au compte du petit enfant ou des frères, des sœurs. Et le même pour les porte-clés NFC. C'est le même système et il y a vraiment des applications simples à utiliser pour que les assistants de vie puissent programmer les puces NFC en fonction des intérêts et des besoins des personnes âgées. Tout ceci s'est fait dans 5 cadres européens. 5 des membres du projet Gare Plus ont porté à terme des expérimentations dans la France, mais aussi l'Italie, l'Espagne, la Roumanie ou la Lettonie. Au final de l'expérimentation, il y aura à peu près 250 assistants de vie et 250 personnes âgées qui auront participé à la formation. Tout d'abord, les assistants de vie seront formés et ensuite les personnes âgées feront partie de cette formation grâce aux moyens et aux outils appris par l'assistant de vie. Plus concrètement, ici en France, ces projets européens, cette formation européenne, elle a été portée à terme grâce à l'aide et au soutien des différents organismes. Vous voyez, ça reprend un peu le nord, le sud, les centres de la France. Donc on a sur le nord l'association Par la Main, à Paris, assistance à domicile, atmosphère et Delta, l'association des Cœurs Malades de Poitou et à Nice, Simon Ball de Vanquière. Ici, vous avez quelques photos des groupes. Quand l'expérimentation a été lancée, on a tout à trois le mentor qui s'occupe de faire la formation aux assistants de vie, ma collègue Marie-Claude Dessen. Et ici, on a juste quelques assistants de vie avec leur tablette qui commençaient à découvrir le milieu numérique et qui commençaient à s'en servir de tous les outils qui sont à disposition. Le groupe Denis, il est formé aussi par des assistants de vie et à droite aussi mon collègue Joan Chalmet, c'est le mentor qui s'occupe de la formation. Il faut dire en fait que les mentors ils sont à disposition des assistants de vie lors de la formation à distance. À part les sessions en présentiel, en physique, ils sont toujours disponibles par téléphone, par mail pour résoudre de petits soucis et des blocages. Comme par exemple, j'arrive pas à trouver mon réseau internet, comment je fais. Donc ils sont toujours, sinon il y a le collègue informatique aussi pour le problème un peu plus compliqué. Donc les assistants de vie, ils sont le soutien tout au long de sa formation pour assurer d'aboutir au résultat du projet. Et vous savez ici, un autre groupe à Poitiers, avec aussi le mentor à droite, c'est ma collègue Camille, et tout l'ensemble d'assistants de vie aussi avec leur tablette. Voyez, au fait, les boîtes, c'est vraiment le tout premier jour de la formation, ils vont juste ouvrir les tablettes et ils sont souriants et apparemment ils continuent souriants aussi, ils sont contents. Juste, pardon, quelques mots pour finir ma présentation. Le projet CARE+ a été basé sur le résultat d'un autre projet européen qui s'appelle CARENET, dont la durée a commencé en 2012 et jusqu'en 2014. Ces projets, ils étaient aussi ciblés sur les compétences numériques, mais ils visaient aussi à concerner les personnes âgées, puisque c'est tous les deux des collectifs qui ont été identifiés par l'Union européenne comme des collectifs à risque d'exclusion numérique, de rester vraiment à côté de l'utilisation des outils numériques et d'Internet. On a aussi porté à terme des formations en présentiel et à distance. Ça nous a permis vraiment d'apprendre et de profiter de toute cette expérience pour le projet CARE+ pour améliorer la formation. Et pour le futur, Iparia travaille pour développer des initiatives et des futurs projets non seulement avec des universités ou des centres de recherche, mais aussi avec des entreprises privées, notamment dans les milieux numériques, qui pourraient nous permettre de porter à terme des projets qui utilisent d'autres technologies que celles qu'on a vues, comme les tablettes ou les puces MC, parce que c'est vraiment un domaine qui est important pour les futurs, au niveau social, mais aussi au niveau économique et professionnel. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible si vous avez des questions. Juste pour ajouter une dernière chose, il y a des plaquettes qui ont été distribuées malheureusement sur le premier fil. J'ai distribué quelques-unes aux premières arrivées. Et si vous souhaitez prendre des informations, il y a quelques signes disponibles, soit sur Hyperia, soit sur le projet européen. Et il y a aussi évidemment toute la formation qui est sur Internet. Et vous avez aussi mon mail, dans les cas où vous voulez poser des questions précises, il y a aussi une possibilité de vous répondre plus tard. Merci beaucoup.